Près de 1500 manifestants ont défilé dans les rues de Douai à l'appel de l'intersyndicale, jeudi 18 septembre. Reportage, Radio Scarpe Sensé.
Ben déjà, on veut réclamer que l'effort qui doit être fait pour soi-disant enlever le déficit national au niveau du budget, que cette solidarité soit bien répartie, parce que nous, on est convaincus que le peuple, les classes moyennes, comme on les appelle, les classes populaires, ont assez payé depuis la crise sanitaire et la crise économique. Et qu'à un moment donné, ceux qui ont profité de cette crise, et on voit au niveau des fortunes qui ont progressé, si je vais prendre qu'un seul exemple, c'est les fortunes depuis 2017. Le patrimoine des familles les plus riches sont passés de 21% du PIB à 42% du PIB. Et pourtant, le patrimoine national n'a pas augmenté. Donc il a bien fallu prendre cet argent quelque part, ou le prendre, sinon sur les services publics et sur le monde du travail.
Donc c'est quoi? C'est la taxe Zuckmann, pour faire court?
Ben, la taxe Zuckmann, ça serait déjà un point, mais je crois que c'est le minimum du minimum. Quand les patrons se plaignent et qu'ils pleurent même, il paraît qu'ils vont même se mobiliser. Bon, s'ils font grève, on ne le verra pas beaucoup dans les entreprises. Pas de salariés dans une entreprise, on laisse que les patrons, l'entreprise ne tourne pas. On enlève le patron, on laisse les salariés, l'entreprise, elle tourne. Il faut savoir que les familles les plus riches payent, les 147 personnes les plus riches en France payent en dessous de 10%, 2% d'impôts sur le revenu, et certains n'en payent pas du tout. Donc, il faut équilibrer les choses.
On ne peut pas craindre qu'à ce moment-là, ces familles, ces personnes décident de partir ailleurs et n'investissent plus dans l'économie, dans l'industrie, dans ce qui permet d'offrir du travail.
Je peux te retourner une question?
Ah, vas-y.
Ils investissent depuis l'arrivée de Macron?
Pas suffisamment.
Ils ont perçu l'année dernière, et heureusement que Fabien Gay, le sénateur communiste, a mené avec les sénateurs une enquête. Ils ont eu 221 milliards d'aides financières, d'aides publiques, réparties, écoutez-moi bien, répartis en 2261 dispositifs. Eux-mêmes ne savaient pas ce qu'ils versaient et les patrons ne se souvenaient plus de ce qu'ils avaient. Alors, à un moment donné, quand on voit qu'il y a 97,2 milliards qui étaient versés aux actionnaires, on peut se demander si l'argent public ne va pas directement dans la poche des actionnaires, parce que l'emploi diminue, les licenciements continuent, la CGT a recensé plus de 400 PSE dans le pays, et ça va continuer comme ça.
On peut craindre également, là si on pense à l'action sociale, on a vu des départements, notamment le département du Nord, le département du Pas-de-Calais, qui ont dû faire face à une baisse des dotations de l'État, craignez également que pour ces collectivités qui sont là véritablement les organes de proximité pour l'habitant, il y a également des coups de rabot.
Ah, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, je me pose une question. Ce ne sont pas la famille politique de Christian Poiré qui sont au gouvernement. Ce n'est pas la famille politique de Xavier Bertrand qui est au département. Les maires des communes qui vont être touchés aussi, ils soutiennent toujours, pour la plupart, les élus politiques qui sont au niveau du gouvernement. Alors moi, je leur dis, qu'est-ce qu'on fait? Nous, à la CGT, on bat le pavé, on appelle à la grève, y compris reconductive, pour parvenir à la grève générale, parce qu'il n'y a que cette solution-là. Moi, qui change de Premier ministre tous les 15 jours, que ce soit Tartampion ou Tartampionne, c'est le capitalisme qu'il faut combattre.
Et enfin, dernière question, un sondage vient de sortir là aujourd'hui. On s'aperçoit que justement des sympathisants ou militants des familles politiques de droite sont favorables à la contribution des plus fortunés du pays.
Ben, je crois que ce que la CGT milite depuis un certain temps, ça commence à porter ses fruits. À un moment donné, chaque personne qui raisonne un peu, avec un peu d'intelligence, se dit il faut que ça arrête. Et quand je reviens, là, est-ce qu'on n'a pas peur qui perdent de la France, mais ils sont déjà partis hein, pour la plupart. Donc ça ne change rien du tout. Et quand on regarde les investissements, à un moment donné, il faut vraiment qu'on regarde comme ArcelorMittal, comme l'énergie, qu'on regarde à renationaliser ces secteurs. L'exemple de l'énergie. Depuis la privatisation, l'électricité a augmenté de 131%. On ne le savait pas. Si, la CGT l'a dénoncé au moment de la privatisation. Mais les capitalistes ne regardaient qu'une chose, les patronats, c'est le 1% qui était versé aux œuvres sociales des électriciens et gaziers. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus qui est versé aux actionnaires.
Vous n'avez pas l'impression que vos arguments, ce que vous expliquez, c'est également ce que nous chante le Rassemblement National ?
Je ne pense pas. Parce que quand on regarde les votes du Rassemblement National à l'Assemblée nationale, à 80% ils ont soutenu des propositions, ils ont soutenu Macron. Donc si c'était plus proche de nous que de Macron, ça serait. Et secondo, nous on n'a rien à voir avec le Front National. Nous on est pour la paix, on n'est pas pour la haine, on est pour l'amitié entre les peuples. Et eux ne sont pas du tout de l'amitié entre les peuples puisqu'ils sont sectaires, racistes. Et franchement, nous ça nous inquiète un peu parce que l'extrême droite monte dans tous les pays d'Europe et aujourd'hui on voit entre ce qui se passe entre les États-Unis et la Russie, il y a de quoi s'inquiéter. Mais aujourd'hui on se rend compte que quand même les positions de Trump, elles sont plus graves que celles de Poutine.
Ce matin on nous a annoncé peut-être 1 million de manifestants aujourd'hui dans les rues de France. Faut faire nombre, faut faire corps.
Ah, il y aura du monde aujourd'hui, mais demain. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ça va, c'est une grève qui va fonctionner. On verra bien. Parce qu'entre nous, on rappelle souvent, on s'est mobilisé à la retraite et on a perdu. Et les gens sont un peu défaitistes aujourd'hui. Non, on a eu du monde dans les manifestations et des familles qu'on n'a jamais vues pour les plus anciens. Je prends témoin, mon camarade. Sauf qu'il n'y a pas eu de grève dans les entreprises. Si on enlève certains secteurs d'énergie, certains secteurs des cheminots, certains secteurs de la chimie, ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup de grèves. Et ce qui nous fera gagner, alors moi, je suis pour bloquer l'économie. Mais on bloquera l'économie si on arrive à la grève. On n'a pas à bloquer dans les ronds-points. C'est bloquer l'entreprise par la grève afin que les dividendes ne soient plus versés aux actionnaires. Il n'y a plus de rentrée d'argent, il n'y a plus de dividendes.
La grande surprise de la semaine dernière, c'était la jeunesse dans la rue. Vous l'appelez à vous rejoindre, cette jeunesse ?
On appelle non seulement à nous rejoindre, mais on est à leur côté déjà, puisque l'Union locale a ouvert ses portes cette semaine à cette jeunesse pour qu'ils puissent se réunir, s'organiser. Et je peux dire que les annonces de Rotario, qui est la casse et tout, on a affaire à des jeunes qui sont responsables et déterminés.
Merlin Robial, je suis le secrétaire départemental de la Santé du Nord pour le syndicat Force Ouvrière.
Alors vous êtes content parce que le Premier ministre a dit je vais faire de la santé ma priorité et je vais mettre les moyens dessus, donc tout va bien.
Non, on ne le voit pas dans les faits en fait. Donc là on est là ici aujourd'hui parce que y a des choses pour nous qui ne nous vont pas pour la santé. Il y a de moins en moins de personnel, on nous dit qu'on coûte trop cher. Accessoirement, on veut revenir sur... Alors même si là, ils ont l'air de vouloir l'enlever, les 2 jours de jour férié, on attendra quand même de voir s'ils disparaissent vraiment. Alors dans la santé, c'est pas qu'on ne veut pas les travailler, c'est que justement, on les travaille déjà. Et donc du coup, là, on va les travailler gratuitement, si ça passe. Après, on a d'autres problématiques au niveau de la santé. On nous a gentiment dit au niveau du ministère que le point d'indice serait gelé jusqu'en 2030. Donc ça veut dire pas d'augmentation de salaire pour les agents de la santé jusqu'en 2030. Là, on a des ratios pour monter en grade, donc passer en classe sup, etc. Ils vont être gelés aussi jusqu'en 2030. Ça ne va pas faire qu'il y a plus de monde qui viendront travailler au niveau de la santé, voire ça va créer des départs, parce qu'il y a des gens qui en ont ras-le-bol de ne pas être considérés, en fait.
C'est-à-dire que demain, on ne pourra plus être malade dans ce pays ?
Ah si, on pourra toujours être malade, mais le problème, c'est qu'il y aura beaucoup moins de gens pour vous soigner. Ou alors, ça basculera sur le service privé, et dans ce cas-là, il faudra sortir la carte bleue avant de...
On n'est pas en train d'y arriver, justement. Est-ce que le processus n'est pas déjà enclenché ?
Alors le processus est peut-être déjà enclenché, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas se battre pour que ça ne passe pas, parce que ça veut dire une santé à 2 vitesses. Ça veut dire que ceux qui auront les moyens pourront se faire soigner. Alors au niveau de nos élites, eux, ils n'ont pas ces problèmes-là, ils n'ont pas nos salaires, ils n'ont pas les mêmes moyens. Eux, ils trouveront toujours à se faire soigner. Par contre, ceux qui n'auront pas les moyens, Alors il restera toujours un peu d'hôpital public, mais comme on sera moins nombreux, les délais d'attente seront encore plus longs, donc ça sera de la perte de chance pour les gens, parce que au lieu peut-être le cancer d'être traité tout de suite, il sera traité après s'être développé pendant 18 mois, parce qu'il aura fallu attendre le rendez-vous.
Qu'est-ce qu'on fait pour attirer également les soignants vers le service public? Parce que ça aussi, on a une désertion des professionnels de santé vers le secteur privé.
Alors oui, on a une désertion vers le service privé, mais surtout on a un gros problème au niveau de la formation. C'est-à-dire qu'au niveau de la formation, on est passé sous le Parcoursup. Et le problème de Parcoursup, c'est que vous avez des étudiants qui aujourd'hui voudraient être infirmier, voudraient être aide-soignant, mais il y a ce classement qui n'existait pas avant, parce qu'avant il y avait un jury, donc vous étiez rencontrés, donc vous ne vous retrouviez pas forcément à 200 km de chez vous. Par exemple, je vais prendre un exemple, un étudiant qui veut devenir infirmier à Douai pouvait, entre guillemets, la plupart du temps trouver une place au niveau de l'IFSI de Douai. Aujourd'hui c'est un pur classement, donc les places sont peut-être prises au niveau de Douai par des gens qui ne feront peut-être pas la formation, c'est-à-dire qu'ils vont s'inscrire un an en attendant d'avoir autre chose parce qu'ils n'ont pas eu leur premier choix. Et donc cette personne qui était très motivée à devenir infirmier, elle va peut-être se retrouver à Saint-Quentin. Donc au lieu peut-être d'être chez ses parents, elle va être obligée de financer un logement, donc peut-être d'avoir un boulot à côté. Et donc du coup, on en forme moins parce qu'il y a aussi beaucoup plus d'échecs. Ce qu'il faudrait réussir à mettre, c'est mettre en place des choses qui soient attractives pour que le métier redevienne attractif et que, entre guillemets, il ait un sens pour ceux qui vont y rentrer. Le problème, c'est qu'on en forme de moins en moins. Je vais parler pour les personnels paramédicaux, essentiellement.
Et enfin, la dernière question. Si le projet de loi de finances 2026 et le PLFS, donc sur l'action sociale 2026, traduisent tous les deux en chiffres les annonces du Premier ministre, mais que, par exemple, on ne revient pas sur d'autres questions, on dit on va financer ça en passant l'âge de la retraite de 64 à 67 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez faire quoi? Vous allez continuer à vous mobiliser?
Au niveau de l'hôpital, on continue à se mobiliser pour avoir les moyens qui sont nécessaires pour soigner la population. C'est-à-dire qu'on ne doit pas adapter les moyens, la population ne doit pas s'adapter aux moyens que l'État va donner. C'est l'État qui doit s'adapter aux nécessités de la population pour être correctement soignée. Donc forcément, on continuera à se battre si, entre guillemets, on ne rend pas attractif la fonction publique hospitalière, si on ne trouve pas des solutions pour qu'il y ait le nombre de personnel adéquat. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, quand il n'y a plus le personnel, quand il n'y a plus les médicaux, on ferme des lits. Après avoir fermé des lits, on ferme des services. Et après avoir fermé des services, on finit par soit fermer des hôpitaux, soit les rejoindre. Mais donc la population se retrouve plus loin pour être soignée.
Voilà. Pourquoi sur les plateaux de télé, on ne voit que des responsables politiques et très peu les responsables syndicaux ou les gens directement concernés par leur domaine d'activité?
Alors, là, je dirais qu'il faut poser la question aux journalistes. Pourquoi ils ne s'intéressent qu'aux hommes politiques et pourquoi ils ne viennent pas nous voir? Ça, j'ai pas la réponse. Je regrette que, entre guillemets, il n'y ait pas une parité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas plus d'autres interlocuteurs qui soient interrogés que les hommes politiques. Oui, les hommes politiques ont des choses à faire et donc des choses à proposer, mais nous aussi, de notre côté, on a des choses aussi à proposer et il faudrait peut-être qu'elles soient entendues ou au moins écoutées déjà dans un premier temps.
Manifestation intersyndicale Douai, jeudi 18 septembre 2025.
Anne-Marie, je suis responsable de la CFDT du Douaisis.
Ajuste tes lunettes, vois la réalité, c'est la banderole que vous venez de déplier.
Ouais. Aujourd'hui, manifestement, nos dirigeants politiques ne voient absolument pas la réalité de la vie des travailleurs. Alors, c'est l'occasion aujourd'hui de lui rappeler qu'avant de pondre des lois ou un budget antisocial, il ferait mieux de regarder la vraie vie. Et on lui rappellera aussi souvent qu'il le faudra.
Elles sont où les solutions?
Les solutions, c'est dans le dialogue, d'écouter nos revendications et de travailler dessus.
Et vos propositions sont lesquelles pour pouvoir ne pas avoir demain une dette qui continue, soi-disant, tous les jours à se creuser?
La solution, c'est de revoir, de travailler sur les exonérations données aux entreprises qui sont données mais sans contrepartie. c'est permettre aussi de taxer ceux les plus riches et de travailler sur un budget social. Moi, je me dis que même retraités, on est tous prêts à faire un effort, mais il faut que tout le monde fasse un effort. Et aujourd'hui, on ne tape que sur ceux qui travaillent.
Donc vous êtes OK avec la CGT là-dessus ?
Sur
les propositions ?
Ah oui, c'est les propositions reprises par l'intersyndicale.
Si on fait le coup du conclave sur les finances, vous allez faire quoi là ?
Moi, j'attends je sais que nos responsables syndicaux vont se rencontrer après la mobilisation. Ils vont travailler sur comment on continue. Et nous, on travaillera au niveau CFDT, comment on fait pour avancer et trouver une solution concrète pour que les travailleurs ne soient pas ceux qui payent. Que les travailleurs ne soient pas les seuls à payer.
La crise aujourd'hui, elle est sociale, ouvrière ou c'est une crise politique qui agite le pays ?
Je dirais un peu de tout. Un peu de tout.
Et vous pouvez répondre à ces deux problèmes ou vous n'avez, vous, à répondre qu'à la question de la crise sociale et ouvrière ?
Pour moi, il n'y a pas... La démocratie, elle est une démocratie politique et une démocratie sociale. S'il n'y a pas de démocratie, de dialogue, ça ne peut pas avancer.
Le fait de retourner aux urnes, ça pourrait être une des solutions, quelle que soit l'issue ?
L'issue, nous, on combattra de toute façon, même si le président décide d'une dissolution ou s'il dit « moi, je m'en vais », nous, on combattra toujours pour que le RN ne soit pas au pouvoir. C'est un risque, effectivement, mais on combattra toujours, on fera des rassemblements, de l'information pour que le RN ne devienne pas le patron de la France.
La semaine dernière, ce qui a surpris, c'est la mobilisation des jeunes. Aujourd'hui, vous les attendez également ?
Bien sûr. La semaine dernière, c'est une manifestation en rassemblement citoyen. La CFDT respecte fortement cette mobilisation. Et bien sûr, les jeunes ont toute leur place dans cette manifestation et dans cette journée.
Vous avez beaucoup défilé contre le projet de loi de retraite. Tout ça pour ça ?
On a quand même, au niveau des retraites, il y a quand même eu des petites avancées. Ça, c'est clair. Et aujourd'hui, on revendique aussi toujours l'abrogation de la loi sur les 64 ans.
Revenir à 62 ?
Au moins. Tout en sachant que le travail sur la pénibilité doit continuer parce qu'il y a des métiers qui ne peuvent pas tenir.
Est-ce que quand la crise est là, quand les choses vont mal, est-ce que les gens ont le réflexe de davantage adhérer à un syndicat quel qu'il soit ?
Là, on vient de tenir pendant 10 jours, on était à la foire Expo de Douai. Honnêtement, on a été fortement, agréablement surpris. L'accueil très favorable de la place des syndicats dans la société. Un bon nombre de travailleurs, de visiteurs sont venus nous voir en disant « Heureusement que vous êtes là ».
Les politiques, ils viennent vous voir également pour vous dire ça ?
Non. Voilà. C'est dommage. J'ai toujours dit, même à un patron, j'ai toujours dit « Vous oubliez partenaires et dialogue ». On est là pour dialoguer. Si on dit partenaires sociaux, il faut que ça soit dans les faits.
Reportage.
Je suis secrétaire adjoint du syndicat Sud à Renaud-Douai. Et du coup, on est aujourd'hui contre le budget vraiment d'austérité qui veut mettre en place ce fameux gouvernement. En fait, c'est toujours les mêmes qu'on ponctionne. C'est toujours la classe ouvrière, la classe moyenne. Où on se fait ponctionner de tous les côtés, où on arrive à plus finir nos fins de mois tellement que tout augmente. Donc arrive un moment, il faudrait peut-être prendre une autre direction et taxer les plus revenus. Au moins, ça mettrait un petit peu d'équité dans tout ce système.
À l'usine, il y a du travail ?
À l'usine, pour l'instant, il y a du travail.
Il y a trop de travail pour mettre l'usine en grève ?
Non, pas vraiment. Après, c'est
parce
là.
Elle n'est pas en grève aujourd'hui, l'usine.
On a fait tous les syndicats, toutes les organisations syndicales de Douai ont demandé à la grève à l'usine. Donc après, c'est chacun prend ses responsabilités de se mettre en grève ou pas et à se mettre dans l'action avec nous. Quoi.
C'est compliqué aujourd'hui que de se dire je me mets en grève pour un ouvrier.
Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué parce que déjà, il y a beaucoup d'emplois précaires. Donc si ils se mettent en grève, on les menace de ne pas renouveler leur contrat. Ça, c'est le premier point. Et de deux, les salaires ne sont pas très élevés en tant qu'ouvriers. Donc, à nous imputer des heures de grève sur les salariés, ceux qui ont une famille, ceux qui ont des loyers à payer, ça devient compliqué. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est dur que les salariés se mettent dans la mobilisation.
Si la solution, c'est de taxer à minima les plus riches de ce pays. Ça paraît tellement simple, pourquoi c'est pas déjà fait?
On se le demande. À mon avis, c'est un pour nous, hein, c'est un cercle où ils ne veulent pas se toucher les uns les autres. C'est les plus hauts revenus, c'est les amis de mes amis, et ils ne veulent pas se toucher entre eux. Alors que si on taxerait que 1 ou 2% de leurs revenus, ça se verrait peut-être pas pour eux, mais ça changerait vraiment la donne à trouver les fameux milliards que Macron a dépensés.
Finalement, il faudrait qu'à l'Assemblée nationale, on ait davantage d'ouvriers.
Ça serait plus simple. Ça serait plus simple.
Parce que la crise, elle n'est pas là également entre la déconnexion de la représentation nationale aujourd'hui et la réalité de cette société.
Ah, tout à fait. On a l'impression que les gouvernements excessifs, c'est des bureaucrates qui sont dans leur bureau doré et qui ne voient pas ce qui se passe dans le pays, en fait. On a l'impression que tout est isolé et qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité.
Pourquoi le RN arrive à faire élire des gens sortis du peuple et que les forces de gauche n'y arrivent pas?
Parce que, en fait, j'ai l'impression que le RN il commence à sortir de la dédiabolisation. Et ils vont aussi dans les entreprises, hein, avec un programme, avec ceci. Et malheureusement, c'est que la gauche, elle n'y arrive plus. Comme ils ont déjà été au pouvoir, j'ai l'impression que les salariés ne croient plus ni à la gauche ni à la droite. Donc, la seule solution, c'est de prendre un parti, peut-être qu'il n'existe pas. À mon avis, je pense que c'est ça qu'ils pensent les salariés, quoi.
Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour conforter et rassurer le monde ouvrier?
Je pense qu'il faut des bons programmes. Essayer d'avoir une position nationale où les projets vont dans le bon sens, mais de tous les côtés en fait, hein, c'est dans le sens des salariés, dans le sens des entreprises, d'avoir un programme juste en fait. Et aujourd'hui, si on n'arrive pas à faire ça, ça marchera jamais.
Vous croyez que ça peut aboutir à quelque chose, la mobilisation, quand on voit les manifestations contre le projet de réforme des retraites et là où on en est arrivé?
Aujourd'hui, c'est la seule façon de se faire entendre, malheureusement, c'est la manifestation. Mais on voit par nos actions, par le passé, hein, c'est qu'on a eu des fortes mobilisations et le gouvernement n'écoute pas. J'ai l'impression que pourtant c'est le peuple qui l'a élu et il n'écoute pas le peuple. Il veut même pas mettre un référendum sur quoi que ce soit. Et il devrait, parce que le pays, aujourd'hui, il est ingérable et il part vraiment en couille dans tous les sens. Vous
pensez que la crise politique aujourd'hui dans ce pays, institutionnelle, elle est due en partie par ce mépris du message envoyé par la rue?
Je pense. Aujourd'hui, les Français n'ont plus confiance aux élites du gouvernement. Ça, c'est sûr. C'est une déconnexion totale, c'est un mépris total envers les citoyens. On n'a plus confiance en eux.
C'est quoi une manif réussie?
C'est une manif où il y a du monde et une manif où il n'y a pas trop de débordements non plus, pas de casse, pour se faire entendre calmement. Parce qu'en fait, quand on casse, l'image qu'on a, c'est voilà les casseurs. Mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui.
C'est toujours calme à Douai.
À Douai, ça se passe toujours bien, régulièrement bien.
Parce qu'il y a peut-être une culture de la manifestation dans cette ville. On peut rappeler également, on est sur une terre très ouvrière qu'a connue la mine, la sidérurgie, aujourd'hui qui respire grâce à l'usine Georges Besse. Quand Renault tousse ici, c'est tout le pays qui s'enrhume. Hein.
Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, oui.
Donc ça amène une culture de la lutte, mais cette culture aujourd'hui, vous avez l'impression qu'elle se perd?
Je pense que les jeunes, oui, ils ont moins cette culture-là. Après, j'attrape la cinquantaine. Mon père, il était délégué avant. Mon grand-père, il travaillait à la mine. Donc on a eu le partage de ces valeurs entre générations. Et malheureusement, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec les réseaux sociaux, avec les téléphones, tout le monde s'individualise un petit peu avec ce système-là. Et ça profite au gouvernement, bien sûr.
Manifestation intersyndicale Douai, jeudi 18 septembre 2025.
Reportage.
Bonjour, ton prénom?
Lou André.
Yanis Kiat.
Moi, c'est Nao.
Eve.
Il n'y a pas cours aujourd'hui?
Si, mais il y a aussi grève et manifestation pour notre avenir.
T'as quel âge?
17 ans.
Ça sert à quoi aujourd'hui à 17 ans d'aller manifester alors qu'on n'a pas encore la possibilité de choisir les dirigeants qui nous gouvernent.
Ben, ça rappelle que, peu importe notre âge dans la société actuelle et depuis toujours en fait, le gouvernement et les politiques influencent les adultes, les personnes âgées, mais également la jeunesse. Et donc montrer notre avis et notre désaccord par rapport à cette politique, même si on n'en a pas officiellement le droit, c'est important.
Tu as déjà manifesté ou c'est la première fois que tu veux manifester ?
C'est la première fois que je manifeste.
Moi j'avais déjà fait quand j'étais petite, à mes 12 ans avec maman, parce qu'elle m'a montré un peu ce que c'était et j'avais bien aimé, du coup je suis revenue là.
Tu viens pour l'ambiance ou pour ce qui se passe actuellement ? Est-ce que tu es inquiète ?
Pour un but précis déjà, c'est de montrer que les étudiants en ont la marre des budgets serrés comme ça dans l'éducation, qu'on n'a plus d'argent pour faire des spectacles alors qu'on est dans une série musicienne par exemple. On n'a plus de chauffage, on n'a plus de douche chaude à l'internat. En fait, on a 3 douches sur 8 qui sont chaudes parce qu'il n'y a plus de sous. Et on va nous dire que c'est pas grave alors qu'en fait, nous, on vit là-dedans. C'est ça. Et donc il y a ça, et donc moi je viens pour l'ambiance aussi parce que j'adore l'ambiance, mais je viens vraiment pour un but précis quand même.
Mais au lycée Corot, il y a quand même des représentants, des lycéens justement, qui doivent porter vos revendications auprès de l'établissement pour les problèmes de douche, de literie et autres.
En fait, il y en a, sauf que ça ne change rien. Ça change rien.
Il n'y a pas de représentant de lycéens. La seule voie démocratique, c'est le CVL. Le CVL, cependant... Ça, en fait, ils ont une AG où il y a un veto royal du proviseur, mais ça, c'est dans tous les lycées, et le proviseur peut dire non, on ne fait pas ça. Donc, il n'y a pas une véritable démocratie au lycée, et un des seuls moyens de se faire entendre, c'est de bloquer et de manifester. C'est quand même bien dommage.
Ouais, bah oui. Oui, c'est dommage. Oui.
Tes camarades, là, sont peut-être déjà les plus bruyants du cortège, ça promet. Ils viennent d'entendre Macron démission. Peu importe l'issue hypothétique d'un nouveau scrutin, ça vous fait pas peur, vous, de voir arriver le RN au pouvoir à la place du pouvoir actuel ?
Si ça fait peur, le RN, sauf qu'on ne peut pas non plus laisser tout passer, donc Macron va falloir qu'il se décide au bout d'un moment de quel parti il est, même si on a déjà une petite idée qu'il est de droite. Et on le voit bien avec toutes les défaillances qu'il y a. Mais je pense qu'il faut que ça change et que... Voilà, mais après, il ne faut pas passer l'extrême droite, il faut vraiment que ce soit la gauche aux prochaines élections. Ce serait vraiment bien après. Est-ce que ça va être le cas ?
Pour l'instant, les sondages disent que ça serait le nouveau Front Populaire qui serait en tête. Après, ça reste des sondages. Oui, évidemment, le RN fait peur actuellement. On rappelle que c'est un parti fasciste. Donc oui, évidemment, le RN fait peur, mais ils viennent au pouvoir à cause d'une politique menée de plus en plus dure et de plus en plus d'extrême droite par Macron et ses gouvernements. On pense par rapport à Retailleau, hein, qui devient de plus en plus d'extrême droite. Donc oui, ça fait peur, mais c'est à cause d'une politique de droite qui se rapproche de plus en plus de l'extrême droite. Que l'extrême droite monte.
Elle est suffisamment politisée, la jeunesse lycéenne, aujourd'hui, selon toi ?
Non, pas du tout. Moi, dans ma classe, il y en a énormément qui sont d'extrême droite, des musiciens, des artistes. Donc, dans ma classe, alors qu'on est en TMD, donc on est censé quand même être ouvert d'esprit de mon point de vue. Et ils veulent même pas débattre avec moi parce qu'ils disent que je dis n'importe quoi. Ils disent que notre seul argument, c'est de casser la rue et c'est eux qui payent. Mais en fait, si on fait rien, comment on peut se faire entendre ? Enfin, c'est vraiment là la question que je leur ai posée. Et ils me disent que ça sert à rien. Voilà. Et donc je leur dis, ça fait 7 ans qu'on a des premiers ministres de droite, 7 ans qui se passe qui se passe rien, qu'il n'y a que des catastrophes, qu'il y a de plus en plus le régime de droite qui vient en pouvoir et vraiment. Et Macron va dire qu'il est de centre. Il n'est pas de centre, Macron. Au bout d'un moment, faut se réveiller, quoi.
T'es en classe musicale, classe adaptée, horaires musicaux.
C'est ça, oui, c'est ça. Donc je suis aussi au conservatoire de Douai en plus. Mais bon, après, moi, du coup, ce qui me désole, c'est que plus tard, mes collègues, ça va être des personnes qui sont d'extrême droite et qu'ils ont un point de vue politique, pour moi, qui n'est pas logique au point de vue de l'histoire. En fait, je comprends pas. Parce que pour moi, c'est le parti des tueurs, en fait, le parti d'extrême droite. Après, on a Bardella qui veut être président, sauf qu'il a pas de diplôme. Il a rien fait de sa vie et il se présente pour diriger la France. Ce n'est pas possible. Comment ça se fait, genre ? Comment c'est possible que des personnes sans diplôme peuvent accéder à ces postes-là ?
Il peut avoir des personnes sans diplôme. Le problème n'est pas qu'il n'ait pas de diplôme. Le problème est qu'il ait des opinions interdites, racistes, xénophobes, homophobes, LGBT-phobes, sexistes.
Tu penses toi-même, en étant jeune, qu'il est trop jeune pour accéder à de quelconque responsabilité ?
Évidemment. Pour moi, il faut quand même de l'expérience avant de monter un poste comme ça. Si, pour moi...
Non, Lou, si tu fais ça, ça veut dire qu'il n'y a que des vieux qui peuvent atteindre les grands postes, et c'est déjà trop le cas.
Il a 24 ans.
Et alors ? Il peut être président, la jeunesse n'est pas le problème, la jeunesse n'est pas le problème. On peut être présidente et en étant jeune, le problème c'est ses idées, c'est pas lui.
Mais pourquoi il a des idées comme ça?
C'est pas des idées, il n'a pas le droit, c'est du racisme, c'est pas des idées, c'est des discriminations qu'il fait. Mais il le pense, et c'est pas parce qu'il est jeune, le problème, c'est, enfin voilà, il pourrait accéder au pouvoir. Je pense que l'âge n'est pas une demande et un empêchement d'accéder au pouvoir. Alors c'en est un actuellement, mais ça ne devrait pas.
Au lycée Châtelet et au collège Châtelet.
Lycée Châtelet à Douai.
À Douai.
Qu'est-ce qui ne va pas au lycée ?
La région nous a lâché sur le budget. Après, c'est l'État qui a lâché la région.
La région n'a plus d'argent
et ne peut donc plus nous donner l'argent pour fonctionner correctement.
Qu'est-ce qu'on ne peut plus faire ?
Eh bien, il faudrait qu'on puisse récupérer l'argent dont on a absolument besoin pour fonctionner.
Besoin pour faire quoi ? Qu'est-ce qui aujourd'hui tourne mal ?
Eh bien, on n'a plus d'argent pour payer les photocopies, pour payer ce dont on a besoin dans les labos pour faire les expériences. Voilà, dans quelques jours, quelques semaines maximum, on n'a plus rien.
Alors comment on va faire ?
Ouais, je ne sais pas. On va faire, je ne sais pas. Ou alors on paye plus le chauffage et l'électricité. On est là sur les résultats des lois de décentralisation qui ont été mal établies, je dirais, mal suivies par l'État.
Ce sont plutôt les conditions de travail aujourd'hui pour lesquelles vous vous inquiétez ou c'est le projet général présenté par le prochain gouvernement tel qu'on peut l'imaginer?
On s'inquiète pour l'éducation de nos enfants.
Il y a beaucoup d'enseignants grévistes sur le Douaisis.
Je n'ai pas les chiffres là tout de suite.
De voir les lycéens à vos côtés.
Ça fait plaisir. C'est bien. Ils se rendent compte de ce qui arrive. Et je pense qu'ils vont être des adultes bien formés.
Monsieur Signy, je suis directeur d'une association qui se trouve près de Douai à Manille. Une association qui travaille donc dans l'insertion professionnelle. Et on a aussi donc une ressourcerie. On est sur champ de SS et de l'insertion. Et on veut se battre.
Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, elle souffre.
Elle souffre beaucoup, 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 parce que donc on a de moins en moins de subventions. Les subventions sont payées très, très, très en retard. Hein. On a beaucoup de besoins également.
Comment on fait pour dire, nous, on a besoin de subventions quand on nous dit, de l'autre côté, il faut faire des économies?
Comment on fait? Ah ben, on tient parce qu'on est militants. On tient parce qu'on travaille avec des gens qui ont besoin de nous. Et on tient parce qu'on a des convictions et des valeurs. On alerte, on défend nos idées, on va sur le terrain, etc. Quoi, donc. Mais on a l'impression que le monde associatif il est méprisé, ouais. Complètement méprisé.
Votre vocation, vous, c'est de remettre les gens dans un parcours d'emploi, ouais. Également les accompagner dans des parcours de soins, parfois,
exactement.
Vers le logement,
ouais, tout.
La prison. Est-ce qu'on arrive à mesurer l'argent investi dans le travail et la plus-value pour la société ?
Non. En général, les politiques et les financeurs ont du mal à mesurer tout le travail qu'on fait au quotidien. Pour aider les gens. Ils ne regardent que les chiffres, hein. Ils sont purement comptables. Et nous, on travaille avec des gens, on travaille avec l'humain, on accompagne des gens, on est dans la dimension humaine. Et tout travail qui est fait n'est pas valorisé.
Votre principal financeur aujourd'hui, c'est qui ? C'est le département ?
C'est le département, l'État, on a plein de financeurs. Quoi, donc.
Ouais, mais quand le département vous dit c'est pas de ma faute parce que l'État m'a pas donné suffisamment de sous ?
On peut l'entendre, hein. On peut l'entendre, mais pas le comprendre. On peut l'entendre, on peut pas le comprendre, mais c'est pas pour autant qu'on doit subir. Hein. On doit subir tout ça, quoi. Donc, nous, on est en bas de l'échelle. Et nous, on attend qu'on nous aide. Parce que donc, il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de gens qui sont en attente. Voilà, c'est top.
On oublie souvent les salariés du secteur associatif. Parce que c'est un des gros employeurs nationalement, l'ESS.
Oui, puis on a l'impression que déjà, donc, tous les métiers de l'humain sont en difficulté. Tous les métiers de l'humain sont. Moi, en tant que militant, en tant que salarié, même tous les salariés des assos, moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout écouté, on n'est pas entendu. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a du mépris à notre égard. Pourtant, on fait un travail au quotidien. Nous, on tient actuellement parce qu'on a des convictions. On tient parce que donc, on est là pour accompagner les gens. On croit à notre métier de l'humain. C'est ça qui nous fait tenir. Mais on ne pourra pas tenir longtemps parce qu'on a besoin de moyens. Et les moyens, on les a On a besoin de moyens, on a l'impression qu'il y a un compte-goutte. Hein.
Ouais, mais quand, quand vous tenez, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'entretenir le système et d'être un peu la soupape de sécurité qui fait que ça ne pète pas entièrement?
Non, je crois pas qu'on est la soupape de sécurité. Je crois qu'à mon avis, donc, on fait en sorte que les gens se sentent bien. Quoi. Donc, nous, ce qu'on... Après on a toujours dit que les assos, c'était les assos qui calmaient un peu tout ça. Quoi. Mais moi, je suis pas dans cette dimension. Nous, on est des salariés, on est des professionnels, on est des professionnels de l'humain. Donc, on n'est pas dans cette dimension quoi, donc, pour l'instant. Donc, mais on se rend compte que... Bah, on a l'impression que voilà, donc on est de moins en moins reconnu pour ce qu'on fait sur le terrain.
Votre colère aujourd'hui, c'est quoi? Elle est moteur ou au contraire elle vous empêche de faire des choses?
Moi, notre colère, elle est moteur. On est en colère. On est en colère contre tout un système. Contre un système qui privilégie plutôt donc, l'économique au détriment du social. Moi je crois qu'il faut les deux, quoi. Donc, il faut pas toujours taper sur les gens qui sont en bas. Hein. Il faut que les gens qui sont en haut, qui prennent des décisions, réfléchissent un petit peu aux décisions qu'ils prennent. Quoi. Donc,
Vous travaillez dans l'insertion. Ouais. On entend également parfois dire mais c'est le social dans ce pays qui nous coûte trop. Il y a des tas de politiques. Il y a des responsables politiques qui nous disent ça. Il faut supprimer les aides, c'est le social qui nous coûte cher. On a même entendu un président dire que c'est un pognon de dingue. Comment on répond à ça?
Nous répond en disant que les gens qu'on a salariés chez nous à travers des parcours d'insertion coûtent moins cher à la collectivité parce qu'ils travaillent. Ils ont un statut social, ils réinjectent l'argent dans l'économie locale, ils retrouvent une dignité et c'est des étapes de parcours. Alors dire que l'insertion ou le social coûte très cher, c'est faux. On apporte une plus-value sur notre territoire, on en est conscient. Mais cette plus-value n'est pas reconnue à sa juste valeur.
C'est quand même surprenant de voir des panneaux pour dire les associations crèvent au milieu du monde de l'industrie, du service. Ouais. C'est peut-être l'une des premières fois que je vois ça dans un cortège à Douai.
On est en train de crever, on est en souffrance, puis on ne comprend pas du tout, parce que j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre les décideurs et nous qui sommes sur le terrain. Et les politiques, il serait temps qu'ils viennent sur le terrain. Parce qu'à une époque, on parlait donc de revoir un peu tous les millefeuilles administratifs, on croule sous la paperasse, on croule sous les procédures, et l'humain n'est pas considéré. Nous, on considère la valeur humaine dans le travail qu'on fait. Je ne suis pas un ordinateur, je ne suis pas un tableau Excel. D'accord, j'accompagne des humains et c'est vachement important. Et on s'enrichit à travers l'accompagnement qu'on fait.
Reportage.
Alors au centre hospitalier de Douai, on a des problématiques de déficit. Donc qui sont liées aux restrictions de budget pendant des années. En fait, c'est des directives qui viennent de l'ARS, qui viennent du ministère. Donc nous, on les subit en fait. On nous demande de l'efficience. On appelle ça de l'efficience maintenant. C'est-à-dire qu'on doit faire plus avec pareil. Donc déjà qu'on est dans un service où on a une crise des vocations, on a du mal à recruter des docteurs, des infirmiers, des aides-soignants, etc. Et en plus, on leur demande de faire plus avec le même personnel ou des fois moins. En fait, on nous dit c'est un passage. Un passage où on a un déficit qui se compte en millions d'euros.
Les premières annonces de Monsieur Lecornu sur la santé, ça vous rassure pas ça?
Ah non, on n'est pas du tout rassuré parce que là on nous dit qu'on va avoir encore moins. Donc ça veut dire qu'on va avoir des budgets où on va devoir faire encore plus d'économies alors qu'on est déjà presque à l'agonie. La fonction publique hospitalière française est presque à l'agonie. On nous demande de faire plus avec moins. Et c'est juste impensable, quoi. C'est pas possible. Nous, on se dit que là, on déclare la mort de la fonction publique hospitalière, la mort de l'hôpital. Et nous, ça nous meilleure de nous. Nous, on veut préserver déjà au moins l'existant. Alors, hier, on a eu Lecornu qui a fait une annonce qui concernait les maisons de santé. Donc, il veut développer les maisons de santé. C'est une excellente idée. Mais avec quels médecins? Avec quels infirmiers? On n'en a pas en France. Je sais pas. En fait, c'est des effets d'annonce. Puisque les gens n'arrivent même plus à obtenir des rendez-vous médicaux en ville. Donc c'est pour ça qu'il veut créer ces maisons de santé, mais c'est encore un investissement. Et nous, on y croit moyen, on se dit, mais où va-t-il aller chercher ces soignants qui vont être dans ces maisons de santé?
Ouais, on avait parlé, il y a M. Bayrou qui avait imaginé hein, que des médecins se mettent à disposition sur des zones, des aires médicaux, ça marche pas ça?
La problématique, c'est que comment on va les forcer à aller dans ces déserts médicaux, ces médecins? On ne peut pas forcer les gens à aller dans une zone. Comment va-t-on faire? Il faut trouver un moyen de les attirer. Les moyens de les attirer, moi, j'ai pas la clé magique. Hein. Souvent, ça va être quoi? Ça va être financier, ça va être une qualité de vie, ça va être dans ces déserts médicaux. Si on n'a plus de médecins, ils ont des bonnes raisons déjà de ne plus y aller. En fait, il faut recréer de l'attractivité dans ces zones et c'est pas facile.
Ça demande de l'argent, ça?
Je pense qu'il faut de l'argent. Là,
quand on demande de l'argent et qu'on nous dit qu'il n'y en a pas, on va le chercher où alors?
Mais ça, on ne sait pas, justement. Parce que nous, on nous demande de tout redresser. Avec moi, dans quelle entreprise on dit aux gens, bah écoutez, on va redresser, on investit zéro et il faut que vous fassiez mieux. Ça n'existe pas, en fait. Il n'y a qu'à l'hôpital qu'on nous demande de faire ça. On nous dit, vous devez faire mieux, mais on vous donne zéro, voire moins qu'avant. Il faut faire des économies encore et encore.
Et quand on parle de la santé, on parle de la vie des gens, quoi.
On parle de la vie des gens. Tout le monde peut se retrouver, moi je dis aux gens, tout le monde peut se retrouver à l'hôpital dans une heure. C'est pas possible de prévoir ça en fait. On peut dire, bah, je suis en bonne santé, bon, c'est pas grave, je suis jeune, je suis ceci, cela. Mais on peut très bien se blesser, dans une heure on est à l'hôpital et on a besoin de l'hôpital. Et là on subira cette dégradation du système en fait.
On peut redouter le pire avec une médecine payante et voilà pour qui aura les moyens.
C'est ce qu'on craint le plus. C'est que nous, en France, on a encore un système de santé qui est très bon, qui est le meilleur au monde, probablement. Et en fait, on soigne tout le monde à l'hôpital public. Et ce qui risque d'arriver avec ce nouveau système, c'est qu'on soignera les riches, et on les soignera mieux, on les soignera bien, et puis ceux qui n'auront pas les moyens, et ben on les soignera moyennement, voire pas du tout, comme dans d'autres pays, comme les pays anglo-saxons. Et nous, on refuse d'arriver à un système de santé qui ressemble à ça.
Qu'est-ce qui fait qu'on garde un attachement particulier au service public hospitalier?
C'est une vocation. Quand on fait notre métier, on est au service des patients. On rentre dans la fonction publique hospitalière, on sait qu'on n'est pas là pour le business, on sait qu'on est là pour le bien des gens. Nous, ce qu'on veut, c'est soigner des gens dans des bonnes conditions. Et pour ça, bah, il faut des budgets. Alors, on n'est pas des financiers, on n'est pas des businessmen. Nous, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir soigner au moins les gens correctement, parce que parfois on nous demande de faire des choses qui sont juste impossibles. Si vous demandez à un soignant de réaliser dans un EHPAD des toilettes aux personnes âgées, vous lui demandez de réaliser 7 toilettes en une heure, mais comment c'est possible de laver une personne âgée en moins de 10 minutes? C'est quasiment de la maltraitance institutionnelle.
Merci beaucoup.
Manifestation à l'appel de l'intersyndicale, jeudi 18 septembre à Douai. Reportage, Hervé Dujardin, production, Radio Scarpe Sensée.